comme ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré pour déranger. Dégenré pour déranger. Dégenré pour déranger.
Une émission féministe
sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipaterna y alegría.
Et quand tu veux, sur radiorageuse.net ou campusgrenoble.org.
Et bienvenue sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et aujourd'hui, c'est l'émission de rentrée de Dégenré, l'émission féministe de Radio Campus, votre émission féministe préférée probablement. Et on est très contente aujourd'hui parce que c'est la 19e rentrée de notre émission. On espère qu'on va passer une bonne année avec vous sur les ondes. Et donc, des nouveautés, en tout cas, cette année, puisqu'on va passer probablement à un créneau d'une heure à la place de notre ancien créneau d'une heure trente. Et on va donc changer de créneau à partir du mois de novembre, probablement. Pour l'instant, rien n'est encore décidé. Donc, mystère, on vous tiendra au courant.
Ouais.
Et donc ce soir, pour une petite émission de rentrée, on avait envie de parler de nos coups de cœur de l'été. Alors on va voir que beaucoup d'entre nous aiment bien lire, mais on va voir aussi qu'il y en a certaines qui aiment bien la musique. Donc un peu des coups de cœur littéraires ou musicaux, ou encore de rencontres avec des collectifs et des personnes qu'on a bien aimées. Donc voilà un peu le programme de l'émission. On est aussi très contente d'accueillir des nouvelles personnes au sein de notre émission, parce que là on est quand même plusieurs autour de la table, plusieurs en technique, toute l'équipe n'est pas là, mais on est quand même bien présente. Et on est trop contente d'accueillir Viviane. Salut Viviane.
Salut. Salut.
Et
salut.
Bienvenue dans l'équipe de Dégenré.
Merci.
Alors, pour commencer notre super émission, je te donne la parole, Poche, parce que je crois que toi, ton coup de cœur, c'est un livre.
Oui, j'aurais pu vous parler de plein de choses, mais j'ai décidé de vous parler du bouquin que je suis en train de lire, que j'ai pas fini. Donc avant de vous le présenter deux secondes, je vous lis un extrait. Coudre avec le feu, refluer le long de mon souffle, fragment de songe, fuir une reine en robe compliquée, drapée de cartes et de vomi de dentelle. Cannibale. Elle ouvre la gueule pour m'arracher la tête. J'attends dans les ténèbres du lit. Je me sens à peine, c'est compliqué. Faut que je sorte de cette tombe. Je glisse en silence pour ne pas réveiller Bia, qui dort étalée sur le dos, la bouche ouverte. Une lune éclaire le parquet vers la salle de bain. Laver cette figure à la verveine. Trois fois. Bulle. La clé de sol attachée à la plus longue mèche de mes cheveux se balance doucement. Miroir, oh miroir, que vois-tu ce matin? Que de la trouille, fille. Je pisse, hypnotisée par ce bruit qui sort de moi en bouillon de canard WC. Je finis le rouleau de PQ en laissant traîner le carton comme la merde que je suis. Statement. Faire couiner la bouilloire, boire mon café à la fenêtre. Les eaux de Belleville glissent et glougloutent le long des trottoirs. Des reflets oranges dans le crépitement d'humide sur le pavé. L'ombre des arbres déplace un miroitement. Me prend soudain l'envie d'aller brûler Euro Disney. Je m'affaire dans l'obscurité couverte d'un plaid. Je remugle une série de notes dans les marges du fanzine, là où j'ai conçu l'ébauche du plan. Comment? Avec qui? Je sais déjà ce que je dois faire et comment le faire. Je le sais depuis des années, je dois juste accepter de le faire. Ce serait tragique de ne me satisfaire que de la possibilité d'une action. Tout me semble insurmontable. J'ai très envie d'un deuxième café, d'un énorme pétard. Mais faut pas. J'ai cette anxiété qui monte et me pétrifie au matin et arrache à mes paupières décollées une prière. Fais que ça se passe bien. Que personne ne meure aujourd'hui. Je résiste à l'envie 0,3 seconde en me répétant que ma volonté est plus forte que mes addictions. Une bougie posée sur l'étagère de la cuisine. Vite, un escafé parce que, faut que je me dilate. Au poste d'observation, scié dans le faible bleu de l'aube. Le carrefour est calme. Le tag d'un poste sur le mur d'en face et un ballon jaune sorti de je sais où, poussé par le vent qui se lève. Les façades sont des cases anonymes où je ne lis qu'un mépris. J'avale un mélange de shoot qui tend ce qui me reste de nerfs en boule de neige. Quand le ciel passe à l'ardoise, lune et réverbère en crève. Bordel où j'ai mis ma weed. L'eau froide de la douche est une série de coups qui laissent sur ma peau des bleus effacés par le savon. Je sèche un corps brisé de partout. Une fleur au pistil en forme de tête de mort a éclos sur ma cuisse. Autour de la hanche pour se terminer tiède sur le ventre. Calligraphie où s'épanouissent des bords sanglants. Dans la chambre, Bia boudeuse sur le matelas, occupée à démêler des hameçons de ses dreads. Tu veux jouer ? Elle m'attrape le sein droit. Je me dégage et me pose, la jambe repliée. J'attrape du fil, une aiguille sur la table de chevet. Je couds pensivement dans le mou d'un t-shirt déchiré qui traîne, ce même t-shirt que je portais lors de ma fuite de l'orée du bois. Je me souviens de la main qui l'avait saisie, qui avait tiré, et de ce tissu qui avait cédé et qui était resté là-bas avec tous les autres. Une fureur me noue les tripes en corde de pendu. Tu vas encore faire la gueule, fille ? Bia, c'est le genre de meuf qui joue du tuba avant de se pioter. Elle se retourne pour regarder un épisode de Dream On, enregistré sur Calamaldini hier soir. On pirate le satellite avec le combo télé-VHS qui nous a pris que les bzzz. J'ai l'impression qu'il y a tout ce qui hurle en moi. Brûlé. Tout brûlé maintenant, là tout de suite, de mes mains tout broyées dans la cendre et lacérer ce qu'il reste de chair carbonisée avec mes ongles, serrer les dents, refouler le fatal, mais continuer à enfoncer l'aiguille rapide, piquer, nouer, étirer, malaxer. Tout cassé, tout brisé, réduire en miettes la tour luciférienne du château de la belle endormie au putain de bois dormant. Je tire une latte. Je vais brûler Euro Disney. Bia bouge à peine. T'es rien qu'une grosse mytho, fille. Hausser une épaule. Et je t'ai dit de pas fumer dans la chambre. Tu me casses les couilles. Je saute dans un jean noir qui traîne, dans les Jimmy Choo, en sky et dans mon cuir tout bouffé. Un paquet de tabac, du shit et la trousse de couture dans le petit sac banane du torse. Bam. Bia me scrute, allongée sur un coude. Ça va retrouver tes potes de maternelle. Notre aube finit dans le mur, dans cette petite chambre avec nous dedans. Je lui avais fait le serment de ne plus jamais crier, mais je crie, je hurle, il y a tout qui sort. Une gerbe que je peux pas maîtriser, avec toutes ces heures passées enlacées, je comprends bien que c'est moi la connasse narcissique. J'avais prévu encore un temps de lecture, mais on me dit qu'il faut que j'arrête. Mais
Alors, c'est super passionnant, moi j'ai envie de t'écouter toute la nuit là.
Mais effectivement, mon extrait était un peu long, donc je vais vous le présenter, mais je... Voilà, effectivement.
Comment s'appelle ce bouquin ?
Ce bouquin s'appelle « Melmotte furieux ». Qui vient de sortir là en rentrée 2021. Et donc je suis encore en train de le lire, mais effectivement j'ai pas résisté à l'envie de vous en parler parce que Melmotte furieux, c'est une uchronie dans une France qui ressemble donc beaucoup à la nôtre mais en plus dystopique, où Phi et d'autres habitants et d'autres personnes quoi habitent une enclave utopiste, une nouvelle commune installée à Belleville et encerclée par la police de la métrique, qui est un système politique associant numérique et répression. Melmotte furieux, c'est Phi, couturière par sens et fil de la vie mortelle, qui part à l'attaque d'Euro Disney, vous l'aurez compris, qu'elle veut cramer, avec rage, espoir, désespoir, angoisse et enfant. Melmotte furieux, c'est un monde entre deux, entre coups reçus et coups donnés, qui donne le sentiment volatile de nous effleurer tout du long. Et qu'est-ce que c'est beau d'être effleuré et s'y perdre. Melmotte furieux, et c'est comme un emprunt et touchant à la fois de familiarité et d'étrangeté, de toute une poésie viscérale, pas seulement dû à l'uchronie drôlement réussie jusque-là, mais aussi à l'écriture de l'autrice, que même avec ce bref extrait, j'espère vous avoir rendu. L'autrice, c'est Sabrina Calvo, avec ses tonalités d'écrit et de cri atmosphériques. Oui, c'est atmosphérique, mais aussi tellement accroché et cavernement relié au corps. Moi, j'adore cette écriture.
Ça fait trop envie.
Ben, c'était pour ça.
Merci, Poche. Alors, maintenant, c'est le moment d'une petite chronique musicale, je crois, ou littéraire, ou les deux.
Bah oui, c'est pas trop littéraire pour moi parce que bah, j'ai essayé de lire cet été comme tous les étés je pense, mais j'ai pas arrivé à lire. C'est un problème que j'ai en continu de pas arriver à accrocher sur des livres, mais par contre j'ai acheté un livre cet été et ça c'est parce que je suis allée chez ma famille et en fait bah, dans ma famille c'est pas valide de d'être sur son portable. Moi je suis très souvent sur mon portable même pour lire, mais et on sait bien que quand on lit sur son portable, c'est pas vraiment de la lecture.
Ah bon ?
Au moins, bah, par rapport à ma famille.
Ah, paraît-il.
Et voilà. Du coup, bah, j'ai acheté un gros livre que j'ai lu deux chapitres entiers, des peut-être, je sais pas, 16. Et du coup, ça m'a servi plutôt pour... être allongé dans un canapé et pas être dérangé par
mes parents. Pour voilà. Être tranquille.
Oui, et c'est même bien, parfois ouais. je pouvais cacher mon téléphone dedans.
Ah, c'était ma question.
Bravo.
Ah, un petit classique. Mais du coup, voilà, je suis restée à écouter ce qui sortait cet été comme musique et je vais vous parler de deux artistes que j'ai découvert cet été et encore une que j'ai beaucoup écoutée tout au long de cette année que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je vais vous parler de Amber Simone, de Cassiette et de Billy No Mates.
On commence par qui ?
On va commencer par Amber Simone, mais avant je vais vous dire certaines choses. Du coup c'est vraiment des personnes avec des styles très différents. Amber Simone avec un style plus soul et R&B, Cassiette plus électro-rock et metal, et Bill No Mates post-punk. Et du coup toutes les artistes, ces artistes sont anglaises et ont sorti des nouveaux morceaux dans l'été ou un peu plus tôt dans l'année. Et du coup pour le premier morceau je voulais vous proposer d'écouter Black No Sugar de Amber Simone pour commencer, et je voulais dire que c'est la version live qui est sortie avec un mini film dirigé par Sophie Jones il y a 2 jours et que je trouve vraiment super, et c'est vraiment magique, et la vidéo qui vient avec le live est aussi superbe, ça aide à entrer dans l'ambiance du morceau. Du coup on écoute.
Just about to break, it has a fall. Tell me what sets you free, oh yeah. Yeah, show what it means to be a part of something. Trust and knowing we can do it our way. Oh, my way. We'll be right back.
toujours à l'écoute de Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Campus 90.8 à Grenoble et dans l'agglomération et partout ailleurs sur internet. En vous connectant sur radiorageuse.net, vous pouvez télécharger nos émissions et bien d'autres émissions féministes tout aussi super. Maintenant, on continue notre émission de rentrée où on fait un peu, on partage nos coups de cœur de l'été ou de l'année ou du siècle, enfin nos coups de cœur en général. Et c'est le moment d'un coup de cœur littéraire, il me semble. Camille, tu avais envie de nous présenter un livre aussi ?
Oui, c'est ça. Bah, moi, je voulais vous parler de mon coup de cœur de l'été. Du coup, c'est un livre qui est paru tout récemment, en mai 2021. Chez Kidam Éditeur, une maison d'édition que je connaissais pas. Et ce livre, il s'appelle Les Bâtardes de Arelys Uribe. Donc c'est une autrice féministe chilienne. Et ça se passe dans les années 90, dans le Chili des quartiers populaires. Et c'est donc un recueil de 7 nouvelles. Et dans chaque nouvelle, on suit la vie d'une jeune meuf ou adolescente et on accompagne en fait ses réflexions et ses doutes qui les traversent, à la fois sur des questions qui touchent aux relations, aux questions d'identité, de sexualité, etc. Et leurs préoccupations, elles sont, ce qui m'a plu, c'est qu'elles sont décrites à la fois comme douces et réalistes, et en même temps, du coup, on plonge dans ces histoires avec beaucoup de facilité, et en même temps, dans le même temps, leurs vies sont aussi traversées par des rapports de pouvoir liés au genre, à la classe, aux questions de racisme qui prend une forme assez spécifique et sournoise au Chili. Et donc, je trouve que ça relate vraiment bien toute cette complexité, donc à la fois un livre assez léger, un enchevêtrement comme ça entre un livre très réaliste et en même temps très politique. Et voilà, on arrive vraiment à saisir en fait un message subtil de cette autrice féministe. Et moi personnellement, je me suis beaucoup identifiée partiellement, puisqu'à la fois ses histoires de vie sont éloignées des nôtres et de la mienne, mais en même temps il y a beaucoup de préoccupations de ces adolescentes qui m'ont beaucoup parlé. Voilà, et donc comme j'ai pas réussi à choisir quelle nouvelle lire, parce que c'est toujours le même problème, hein, on est toujours coupé. Oui.
Attends, je voulais te poser une question, peut-être j'ai pas bien suivi, mais du coup c'est traduit ?
Oui, c'est traduit, ouais, c'est en français, c'est paru, ouais, donc dans cette maison d'édition, Kidam Éditeur.
Ah oui, au départ avec, c'était écrit...
En espagnol, j'imagine. Du coup, on va vous lire avec Caro la postface. Plutôt, voilà, je trouve qu'il résume super bien en fait ce livre. Elle a été écrite par Gabriela Viener, donc c'est pas l'autrice, là c'est une chroniqueuse journaliste péruvienne. Arelys, sorte d'apparition martienne dans la bourgeoisie littéraire chilienne, si arrogante, snob, aisée, BCBG, si blanche, machiste et néroudienne, si donosienne, si stupide en somme. Donc allusion à José Donoso, qui est un romancier et nouvelliste chilien. Elle, au contraire, est arrivée revêtue du pelage des nôtres. Toute femme possède un souvenir sordide, a-t-elle écrit. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit.
Avec une ouïe prodigieuse pour dire, capter les rythmes originels, naturels et les tensions subtiles qui nous entourent, elle fait écrire pour la première fois celle qui n'avait jamais écrit, ni même parlé. La voix n'est pas une chose qui vous est donnée ou rendue. Elle jaillit un jour, écrit, et le reste du monde l'écoute enfant. Alors elle s'enhardit, s'élève et se propage, comme chez la poignée de jeunes filles qui s'expriment dans Les Bâtardes, juste des femmes issues de la classe moyenne populaire, voire très populaire, à l'époque où Internet était lent, les bus aussi vieux que les téléviseurs et où, quand on sortait, on buvait du rhum orange dans des gobelets en plastique.
Pour elle, Les Bâtardes, l'expérience de grandir consistera à regarder pour la première fois en face le fond des choses et à tordre le cou au silence, jusqu'à ce qu'il en sorte un bruit. À s'émanciper de ce qui ne possède pas de nom. Qui, elles ne tarderont pas à le savoir, les traverse en tant que femme, en tant que personne, et appartient désormais à la mémoire collective. Elles apprendront alors pourquoi nous avions des vies si différentes tout en appartenant à la même famille, comme dit l'une des cousines de la première nouvelle.
Les jeunes filles de bâtardes devront supporter d'être enfermées dans des cases en banlieue, moyennant le ressentiment social et les histoires générationnelles, les référents pop féminins des années 90 dans l'imaginaire urbain marginal. Mais leur véritable rébellion aura consisté à mettre en marche cette langue animale, cette cadence brisée et irrécupérable de l'argot quotidien, des quartiers appauvris, qui nomment et renomment à partir d'une fausse nostalgie, afin de bien mettre en évidence la brèche de nos désaccords. On n'apprend que ça, qu'à la marge. Savoir trancher les mots quand ils deviennent inutiles. ou ce que fait Arélis avec la réalité, laissait celle-ci l'accompagner comme une chienne sur le chemin du retour à la maison, jusqu'à l'arrêt de bus numéro 20, comme deux amies ouvrières prolétaires.
Avant l'arrivée de ce livre en Espagne, des milliers de jeunes filles des quartiers populaires chiliens se sont identifiées à cette subjectivité émergente, aux histoires de jeunes banlieusardes métisses, précaires, citadines, urbaines, indigènes, bisexuelles, celles dont Arélis est la chroniqueuse non officielle. Elles se sont vues là, pour la première fois, enfin avec leurs désirs et leurs tourments. Tout ce que ne reflète pas la littérature intramuros du masculin universel, entrée dans les quartiers de Las Condes et Providencia, qui sont donc deux quartiers aisés de Santiago. Ni celle du réalisme urbain sale des garçons maudits, où elles étaient les fiancées, les petites chiennes, les petits culs, les muses efflanquées et perverses de leur délire bukowskien.
Il est surprenant que les bâtardes se déroulent à une époque où les filles ne sont absolument pas politisées, et pourtant, en suivant leurs avatars, nous savons parfaitement quelles sont les prochaines féministes, qu'elles vont déferler, exploser, se rebeller. La jeune fille qui crève le ballon de l'amour idéalisé, parce que son fiancé lui envoie des photos de son pénis tout en lui promettant un avenir pour elle et ses enfants. La jeune assistante sociale fraîchement diplômée qui se rend pour la première fois dans un collège public et voit dans ses installations insalubres le fidèle reflet de l'enseignement dans son pays. Les cousines qui se touchent les seins mais sont séparées par les conflits et les abîmes sociaux entre leurs propres familles. La jeune fille qui rentre d'une fête et comprend que, si elle aime la nuit, elle doit affronter les mêmes dangers qu'une chienne errante, en se tenant le plus loin possible du berger allemand.
Curieusement, maintenant que je veux parler d'Arélis, des métisses, de tous les sangs, de nos corps mêlés et de nos identités croisées, le terme de pureté me vient à l'esprit. Je veux parler de la simplicité de son expression, de l'intimité précise de ses descriptions pour la compréhension des mondes. L'auteur ne cherche pas les symboles ni les idées. Elle va derrière les choses, qui sont ce qu'elles sont. La réalité objective et délabrée qui fait naître l'imagination. Chez Arélis, l'impur devient pur. L'histoire de la peur, de l'invisible, de celle qui ne comptait pas et qui compte aujourd'hui, font de ce livre le portrait le plus vivant de notre intensité et de notre démesure. Et sème, sans se le proposer, le germe de la prochaine révolution. Donc, c'était Gabriela Wiener, une chroniqueuse poète et journaliste péruvienne qui a écrit cette préface du livre « Les bâtardes » de Arélis Uribe, qui est sorti en français en mai 2021 chez Kidam Éditeur et dont je vous conseille bien la lecture.
Super. Eh ben, on continue notre émission de coups de cœur. Et donc, Viviane, tu voulais nous présenter plusieurs coups de cœur ce soir.
Effectivement, moi je voulais faire une proposition avec plein de coups de cœur, beaucoup de coups de cœur parce que moi je ne sais parler que de ce que j'aime, donc je vais parler surtout de musique et de femmes qui font de la musique et de lectures qui sont parfois des continuités, qui vont avoir des continuités justement dans la musique. Donc comment l'été qui nous quitte nous rappelle aussi qu'il y a des lectures qui nous restent. Et en tout cas, ces lectures d'été m'ont pas quittée. Elles sont assez récentes, même si leur parution, en tout cas pour le livre dont je vais vous parler, ne l'est pas, elle.
On a le droit d'avoir des coups de cœur qui sont des
qui sont un peu anciens. Oui, bien sûr. Alors, ce dont j'ai choisi de vous parler ce soir, c'est une manière de répondre à une question qui est assez lancinante chez moi, qui est presque une idée fixe. Une question assez simple qui est comment l'art peut exprimer les féminismes aujourd'hui qui sont... en acte, en présence et très diversifié. Et comment on peut rendre compte en fait de toute cette diversification des vécus. Et pour commencer en fait à répondre à cette question, il y avait ce livre, ce premier livre, qui est un ouvrage de Lane Redmond, qui est une percussionniste qui habite à New York et qui a écrit un livre qui s'appelle La femme tambour, avec comme sous-titre Renouer avec la déesse intérieure. Alors évidemment, moi, je n'ai pas trouvé la déesse intérieure et je n'ai pas renoué avec ma déesse intérieure, mais j'ai entendu certaines des propositions de Redmond qui va nous faire toute une chronologie sur le lien entre la femme et le tambour. Cette chronologie est assez importante, sauf qu'elle conclut quand même sur le fait que nous avons perdu l'instrument, le tambour, et avec lui, le pouvoir. C'est sa constatation. À un moment, elle renoue, elle, avec sa déesse. Elle arrive dans des choses un peu plus spirituelles, mais j'ai manqué ce tournant. Ce qui m'a intéressée, moi, c'est comment, eh bien, finalement, on pourrait lui donner tort. En tout cas, ne pas lui apporter tout le crédit nécessaire. En tout cas, ne pas croire que nous en sommes arrivés là, à avoir perdu nos tambours et nos pouvoirs. Et donc, je suis partie un peu à la recherche de femmes qui font du tambour dans des visées non partielles, même si elles le sont musicales, mais aussi féministes. Qu'est-ce que ça veut dire que de jouer du tambour de manière féministe ?
Et t'en as trouvé ?
Et j'en ai trouvé, ouais. Car je suis assez obsessionnelle dans mes recherches. Et donc, je suis partie dans mon premier exemple, en Argentine, avec deux percussionnistes, dont une qui s'appelle Vivi Posebon et la deuxième Lily Zavella, qui sont deux percussionnistes professionnelles qui ont décidé de monter des ateliers de percussion pour les femmes et seulement pour les femmes. Elles ont monté un documentaire aussi qui s'appelle « Les femmes au tambour », un documentaire qu'elles ont sorti en 2019 et qui s'est étalé sur 4 ans. Et dans ce documentaire, nous rencontrons pas moins d'une trentaine d'expériences, mais sur peut-être 5000 femmes qui ont participé à ces ateliers. Donc elles ont sillonné l'Argentine, elles ont un peu rayonné aussi sur d'autres pays limitrophes, pour essayer de montrer qu'en fait, s'approprier le tambour n'était pas juste une démarche musicale, mais pouvait aussi être l'occasion d'une sororité et aussi l'occasion d'une prise de voix. Et on sait très bien, et même l'ouvrage de Les Bâtardes nous parlait un petit peu de donner la voix, et de ce que c'était que de prendre la voix, et d'avoir les modèles à travers les récits des autres. Et là, le tambour est quelque part cette voix qui est saisie, qui est reprise, et qui permet en fait de retrouver une force, de retrouver une assurance, avec des témoignages qui vont dire que le tambour les a aidés à retrouver leur corps, à retrouver une confiance, puisque si elles pouvaient en jouer, elles pouvaient faire d'autres choses, et qu'à présent elles se sentaient prêtes pour faire autre chose, qu'elles pouvaient aussi renouer avec leur propre féminité, puisqu'il y avait aussi cette dimension très tactile du tambour, de cet instrument qu'elles avaient entre les mains. Elles ont réussi à créer un espace où, par la musique, on pouvait réfléchir à ce que c'était qu'être femme, ensemble, quelle place on souhaitait prendre, comme on prend la parole, mais peut-être de manière un peu différente, changée en tout cas, par cet intermédiaire du tambour, et non pas dans les codes d'une société qui impose une place, qui impose une attitude aussi, et en rapport avec ça, on se souvient quand même que l'Argentine a gagné cette bataille pour le droit à l'avortement, qui en fait a été presque en écho à cette grande entreprise aussi qui a été menée par ces femmes au tambour. Et donc il y avait un lien avec l'actualité, un lien avec leur intimité, et toute une parole féministe, mais qui a pris le truchement de la musique, du tambour, et qui en fait est extrêmement inspirant.
Et alors comment on les trouve si on veut savoir plus sur ces femmes-là ? Toi, t'as vu ce documentaire ?
Oui, j'ai vu ce documentaire sur internet, très simplement, avec quelques mots-clés très simples, femmes tambour, on rajoute Argentine, voilà.
Alors on va pas trouver de vidéos en ligne.
Voilà.
D'accord.
On va les trouver assez facilement.
Okay.
Et le livre même dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, de Laine Redmond, La femme tambour renoue avec sa déesse intérieure, est aussi extrêmement facile à trouver.
De toute manière, si vous êtes habitué à trouver nos émissions sur le site de Radio Campus ou sur le site de radiorageuse.net, vous savez, vous ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les références avec les liens même vers les sites peu recommandables qu'on fréquente toutes et tous. Est-ce que c'est bon, Viviane, pour...
On peut enchaîner, oui.
On peut enchaîner, super. Alors, je crois que c'est de nouveau le moment d'une petite pause musicale proposée par Zoé.
Et du coup, moi, je vais m'éloigner un peu des tambours et même je vais m'éloigner du style du dernier morceau qu'on a proposé. Et du coup, la deuxième artiste que je voulais vous faire écouter, c'est Cassiette, qui est une rockeuse anglaise. Son style me rappelle pas mal le rock électro des années 2000. Et elle avait commencé, c'est ce qui m'avait attiré mon attention, avec un groupe de meufs uniquement. Et du coup, maintenant, je sais pas où ça en est, mais au début, c'était c'était ce que j'ai lu et c'était ce qui, elle était connue pour ça. Du coup, ça m'a fait vraiment un coup de nostalgie pour le rock de ces années-là, et surtout que d'entendre le style qui revient d'un coup, et aussi son esthétique est très années 2000. Et du coup, son dernier morceau sorti s'appelle Petrichor, et c'est sorti officiellement en septembre, mais un peu avant sur ses réseaux. Et du coup, je vous propose de l'écouter, Petrichor de Cassiette.
À l'écoute de Dégenrer, l'émission féministe sur Radio Campus 90.8. Ce soir, c'est notre émission de rentrée. On est super contente de vous retrouver pour encore une super année de radio et de féminisme et de tout un tas de luttes. Et donc ce soir, on fait nos coups de cœur. Et donc, Viviane, tu avais encore un coup de cœur, comme tu l'as dit. Les coups de cœur cet été ont été nombreux.
C'est ça. Un autre coup de cœur qui va un petit peu dans la continuité de mon premier exemple. Et bien que ce ne soit pas du tout la même musique, il y a un peu cette même force du collectif et de la musique quand même. Ce collectif s'appelle 30 nuances de noir. Il est basé à Paris. Et il est dirigé par une musicienne et danseuse qui s'appelle Sandra Sainte-Rose Fanchine. Et en fait, ce collectif, je l'ai d'abord découvert par des images de leurs performances qu'elles font dans les rues de Paris. Là, c'était une performance que j'avais vue sur le parvis de la Villette. Et pour vous donner un petit peu l'ambiance, ce sont toutes des femmes racisées, donc africaines ou antillaises. Et elles sont toutes en robe lamée paillettes. Donc ça donne quelque chose d'assez dénotant dans l'espace public. Ça reste une fanfare, mais il y a quelque chose de très spectacle. Et puis, quand on s'approche de ce spectacle, justement, où on croit qu'on va retrouver peut-être une nuance un peu glamour dans ces rues de Paris, eh bien, on se rend compte qu'elle nous chante « Fuck you ». Donc, du coup, en fait...
Elle chante quoi ?
Elle nous chante « Fuck you ».
Ah, c'est donc bien un gros mot.
Ouais. Et donc, du coup...
Comment tu dis ?
Et donc, du coup, c'est une chanson.
Ah mais la chanson Fuck you non.
Alors c'en est une autre.
C'est d'accord que j'ai une grande culture.
Mais je pense que c'est un leitmotiv dans beaucoup de genres musicaux. Donc du coup elles ont fait cette petite reprise, mais elles reprennent aussi Missy Elliott par exemple, qui a aussi un langage très
fleuri,
voilà. Et donc du coup il y a une forme de décalage entre ces performances dansées, puisqu'elles dansent avec leur instrument, elles chantent. Elles ont un côté très très show business, très voilà, ça claque, oui, ouais. Beaucoup de paillettes et en même temps, ben elles ne présentent pas quelque chose d'aussi glamour que ce que l'on voit de loin.
Elles dénoncent
et en fait, elles dénoncent parce que l'idée un peu qui est derrière ce collectif, en tout cas pour Sandra Sainte-Rose Fanchine, c'était de réfléchir à comment la société interférait sur leur vie affective en tant que femme noire. C'est-à-dire comment on parlait à leur place, comment on les stéréotypait à travers la femme sans papier, fiticité, prostituée, enfin tous ces stéréotypes qu'elle semblait toujours recroiser. Et elle voulait en fait se réaccaparer, en tout cas réaccaparer la réflexion dessus, puisqu'elle n'a pas changé encore les choses, mais essayer de voir comment pourrait fonctionner en fait ce décalage dans l'espace public. Et je trouve que cette initiative est assez intéressante parce que on a très peu de fanfares afro-féministes. On a beaucoup de fanfares en France, c'est quelque chose de sûr. Mais
c'est pas vrai en plus qu'on
oui.
a beaucoup de fanfares.
Mais oui, chaque ville et village compte une fanfare. Mais c'est trop, je suis d'accord. Mais pas ce genre de fanfares qui en même temps ne sont pas que là pour nous divertir. Et précisément, nous ne sommes pas que là pour divertir. Et moi, ça me rappelle un livre, qu'on lit de la musique, enfin qu'on met ce livre en perspective, c'est celui d'Angela Davis, qui a écrit un livre il y a quelques années, qui s'appelait « Blues et féminisme noir ». Donc Angela Davis, on ne la présente plus, mais son livre était assez intéressant parce qu'elle montre à quel point la femme dans le blues, déjà, avait quelque chose à dire. Mais il faut peut-être mieux l'entendre. Donc du coup, voilà, c'est 30 nuances de noir. Elle sillonne la France, donc si jamais vous les croisez, allez danser avec elle.
Et alors, ça ne va pas être la question sur le fond la plus importante, mais quand même, ça m'interpelle sur le... Quand tu dis donc performance de rue, ça veut dire qu'elles peuvent se produire n'importe où, ce n'est pas des trucs calés, institutionnels, je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, elles investissent la rue.
Oui.
Et donc, on les voit gratuitement. Enfin, c'est la performance de rue.
D'accord. Oui.
C'est du spectacle de rue, après, je pense. C'est organisé, quand même. Elles ne débarquent pas sans que ce soit prévu.
Leur chorégraphie... Alors, moi, j'ai vu j'ai vu une vidéo de leur répétition. Tout ce qui est chorégraphié... et répéter en salle. Oui, après elles évoluent dans le public aussi, enfin avec les personnes qui sont là et qui se retrouvent en fait tout à fait pétrifiées par ces injonctions musicales. Pour le coup, c'est musical.
Peut-être à savoir, est-ce que c'est prévu qu'elles interviennent dans la rue ou est-ce que c'est vraiment des interventions sauvages
Je pense que c'est prévu, puisque elles ont des dates, on peut les retrouver. Mmh, okay. Donc à partir du moment
c'est aussi où une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut les trouver.
C'est ça. Ouais. Si je me souviens bien, elles seront bientôt à Toulouse. Donc si quelqu'un nous écoute de Toulouse, allez-y.
Peut-être un jour à Grenoble. Qui sait?
Ne me lance pas de défi.
On vous tiendra au courant si c'est le cas. Alors en parlant de rue et en parlant de livres. Finalement, ça, je trouve que ça fait un enchaînement vers un coup de cœur peut-être un peu décalé de nos sujets de ce soir et en même temps complètement en lien. Alice, je suis curieuse de ton coup de cœur du soir.
Et salut. Alors moi j'avais envie de vous parler des livres que j'ai aimés et puis après je me suis dit qu'en fait j'avais surtout envie de vous parler de la grève des bibliothécaires. Alors en ce moment, y a plein de bibliothécaires partout en France... et aussi dans les DOM-TOM qui sont en grève contre l'obligation de devoir faire un travail sécuritaire et du coup de devoir vérifier les passes des personnes et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accès à la culture pour les personnes qui fréquentent les bibliothèques. Je trouve ça vraiment super qu'il y ait des personnes qui fassent grève sur ces questions-là parce que c'est grave ce qui se passe en ce moment en termes de dérive sécuritaire. Et c'est un mouvement que je trouve assez fort. À Grenoble, ça va faire 25 jours qu'ils et elles sont en grève, qu'ils sont en rendez-vous avec la mairie et que la mairie bouge pas trop. Et là, la seule possibilité pour refuser ces histoires de passe sanitaire, c'est de dire qu'on est d'aller voir le médecin du travail et dire qu'on est trop faible personnellement pour faire le travail de contrôle. Donc voilà, c'est assez dégueulasse. Et donc face à des choses dégueulasses, et ben le classique, c'est la grève, et c'est super. Et j'ai envie de les saluer, d'apporter mon soutien. Et si vous avez envie de plus d'informations, et bien il s'avère que Micro-Ondes a fait samedi 2 octobre, vous pouvez trouver les podcasts sur le site de Radio Campus Grenoble. Voilà, vous pourrez trouver une émission où il y a des bibliothécaires en lutte qui viennent parler de ce qui se passe plus conséquemment.
Et je voulais dire, les bibliothécaires de Grenoble sont en grève, mais sont rejoints régulièrement par les bibliothécaires de toute l'agglo de Cessin, de Cessinet, de Fontaine, de je sais pas où.
Du Trièves.
Du Trièves et de certainement plein d'autres agglos que je ne suis pas capable de vous citer, mais c'est, voilà, c'est toute l'agglo du bassin grenoblois, et parce que des bibliothèques, il y en a dans toutes les communes, et c'est vrai que c'est des endroits importants que... Je pense qu'on est plein à aimer ici. Qui sait qui aime bien les bibliothèques ici?
Oui.
Alors soutien aux bibliothécaires. Je crois que donc le troisième coup de cœur musical de Zoé.
Du coup, moi pour le dernier morceau que j'ai à vous proposer, je voulais vous présenter, c'est un morceau de Billy Nomates sorti en janvier. Et c'est une artiste du coup qui fait du post-punk qui est anglaise. Et elle a été connue surtout l'année dernière. Et ce morceau, c'est son dernier qui est sorti, si je ne me trompe pas. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment résonné avec moi en début d'année. Et je l'ai beaucoup écouté. Ça s'appelle Hills. Et du coup, voilà, on va écouter Hills de Billy Nomates. Bonne écoute. I do not do heels.
êtes sur Dégenré 90.8 Radio Campus Grenoble et comme nous avons un petit peu de temps, je vais pouvoir vous parler de mes coups de cœur littéraires de l'été. Alors il s'avère que mes coups de cœur littéraires de l'été, c'est deux BD et c'est deux BD qui sont en 5 tomes et qui viennent de se terminer. Et c'est-à-dire que cet été sont sortis les derniers tomes de ces deux bandes dessinées. Donc je vais commencer par un manga qui s'appelle BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. Et du coup, elle raconte l'histoire d'une rencontre dans une librairie entre une dame de 75 ans et une ado de 17 ans. Et donc, c'est leur rencontre. Elles se rencontrent un peu sur un amour commun qu'elles ont du boys love, donc c'est-à-dire des mangas qui racontent des histoires d'hommes homosexuels. Et ensuite, se crée une amitié entre elles deux et elles vont dans des conventions de manga ensemble. Elles se motivent à faire des choses qu'elles avaient envie de faire depuis longtemps, etc. Et c'est vraiment... C'est très doux, c'est très joli, c'est bien dessiné, l'histoire est très accrocheuse et je trouve que c'est assez rare d'avoir des histoires d'amitié transgénérationnelle de femmes qui ne se connaissent pas. Donc j'avais envie de vous encourager à lire BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. Là, on rentre plutôt pour ma deuxième bande dessinée, dans la bande dessinée on pourrait dire adolescente. Et je vais vous parler d'une série de bandes dessinées qui s'appelle 5 mondes et qui a été écrite par plein de personnes différentes. Donc il y a Mark Siegel, Alexis Siegel, Xante Bouma, Matt Rockefeller et Boyasson. Le dessin est magnifique. Vraiment, les couleurs sont magnifiques, les couvertures donnent envie et du coup, c'est une histoire entre plusieurs adolescents qui se rencontrent dans un monde qui est un peu en perdition, notamment en termes écologiques, et qui essaye de faire des choses par rapport à ces questions-là. Et donc on va suivre l'héroïne qui est danseuse du sable, c'est-à-dire qu'elle a une capacité où elle peut agir sur la matière, notamment le sable, et lui faire prendre des formes dansantes. Et on va suivre son histoire, qu'est-ce qui lui arrive, la rencontre avec les autres personnages. Et donc cette série est finie, elle se clôture, c'est une très jolie fin. Et je vous conseille cette lecture, ça fait vraiment du bien. Voilà. Et maintenant, je nous laisse avec un agenda, c'est ça ?
Merci pour ce coup de cœur surprise.
Ça a l'air super, cette BD avec la danseuse de sable et tout.
On était en train d'essayer de faire la danseuse de sable, le sable qui danse. Enfin bon. Et moi, je disais, c'est dommage qu'on soit à la radio et pas à la télé. Alors que moi, je pense au contraire que c'est super. C'est l'avantage de la radio. Alors toujours sur Radio Campus 90.8 pour cette émission de rentrée qui touche à sa fin. Alors on avait envie de faire un petit agenda parce que nous sommes dans une rentrée assez dense en propositions en tout genre. On va évidemment pas du tout pouvoir parler de tout, mais peut-être moi je vais parler de... Alors je sais pas si ça rentre dans les coups de cœur ou les coups de gueule, pour le coup un espèce de mélange. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de vous inviter de manière très importante à un rassemblement qui aura lieu le 9 octobre, un samedi après-midi à 14h30, place Félix Poula. Et c'est un rassemblement pour la reconnaissance d'une maladie qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, qu'on appelle parfois l'EM pour aller plus vite, mais son nom entier c'est encéphalomyélite myalgique. Ça vaut le coup de s'entraîner à le dire. C'est une maladie que personne ne connaît, enfin personne, très peu de monde. Pourtant c'est une pathologie qui est invalidante, qui est dévastatrice et qui touche beaucoup de femmes. Alors on n'a pas de chiffres pour les LGBTIQ, hein, donc c'est vrai qu'on dit ça, on dit que ça touche à 80% de femmes. Et est-ce que c'est pour ça ? On peut émettre l'hypothèse que c'est peut-être pour ça que c'est complètement ignoré par la médecine et par la recherche. Il y a des millions de malades qui sont livrés à eux-mêmes, à elles-mêmes, à travers le monde, qui n'ont pas de traitement, qui n'ont pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance, ça veut dire par exemple qu'on ne peut pas prétendre à l'AAH, à l'allocation adulte handicapé. Donc ça veut dire que si on n'a pas de revenus, qu'on ne peut plus travailler parce qu'on est malade, eh ben, on est dans la merde. Et donc, pourtant, l'OMS reconnaît cette maladie, l'EM, depuis 1969, comme une maladie neurologique, mais la France, toujours pas. A priori, on estime à au moins 300 000 personnes en France qui seraient atteintes de cette maladie. Donc voilà, le 9 octobre, des malades de l'encéphalomyélite myalgique et des proches appellent à manifester pour dire stop à cette injustice et pour demander la reconnaissance de cette maladie pour une prise en charge adaptée des malades. Donc le but de ce rassemblement, c'est vraiment de faire de la visibilité, hein. Et donc l'idée, c'est de venir avec le symbole, c'est d'avoir un t-shirt rouge. Donc si vous pouvez venir, si vous avez envie de venir et que vous pouvez venir avec un haut rouge, un pull rouge uni, c'est super. Et pour en savoir plus sur cette maladie et sur ce mouvement, hein, vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle millionmissing.fr. L'association qui essaye de se battre pour la reconnaissance de cette maladie s'appelle millionmissing pour dire que c'est des millions de gens qui manquent. Comme c'est une maladie très invalidante, c'est des personnes qu'on ne voit plus. Et donc millionmissing.fr ou millionmissing France sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur... j'y connais rien en réseaux sociaux. Si vous y connaissez quelque chose, vous les trouverez. Voilà, donc le 9 octobre à 14h30, place Félix Poulas, soyons nombreuses et nombreux pour soutenir aussi les personnes malades. Et voilà, ça c'était ce qui me tenait à cœur de vous inviter.
Comme tu l'as dit, un coup de gueule qui vient du cœur.
Merci Poche. Que, peut-être pour finir, petit agenda rapidement, bah, tenez-vous au courant, là j'ai l'impression qu'à Grenoble il se passe plein de choses au niveau culturel, il se passe plein de choses dans les librairies, il se passe plein de choses partout, donc regardez les affiches sur les murs, ressortez, profitez-en, et il y a certainement plein de choses féministes. Moi je peux dire un coup de cœur. Là, il va y avoir un festival qui s'appelle « À bientôt, j'espère », qui est un festival de cinéma documentaire et qui commence à partir du 8 octobre. J'ai pas le programme avec moi, donc j'ai pas le programme exactement en tête, mais il y a notamment un film qui s'appelle « 104 rue du désert » et qui est génial. C'est un film algérien qui fait un portrait de femme absolument fantastique. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Ça, c'est mon coup de cœur. Et je suis trop contente parce qu'il passe dans ce festival. Et si on voulait faire aussi un petit clin d'œil à la Bretagne, Bretagne Finistère, il va y avoir un festival féministe qui s'appelle le festival Pchit.
Ouais, Pchit. Et puis ben voilà, on a été certaines à croire qu'on pouvait y aller. Et comme on peut pas y aller et que c'est la semaine prochaine, et ben une grosse pensée, mais à part ça.
Big up.
Pchit, quoi.
Big up aux copines féministes de Bretagne qui organisent un super festival féministe. Et si vous passez en Bretagne Finistère, ben allez faire un tour et passez-leur le bonjour pour nous. Et puis, bon voyage Camille.
Oui.
On te retrouve dans quelques mois, tu nous reviens.
Hein. Oui, je reviens vite.
Et en tout cas, c'était notre première émission, certes avec Viviane, mais c'était notre première émission d'une heure.
Bravo.
Oui. Maintenant, vous allez plus râler à nous écouter dans les bus, tout ça, les machins, que notre format est trop long.
Vous allez nous dire que c'est trop court.
Mais par contre, nous, ça nous stresse bien de tout caler.
Bon, allez, bonne soirée.
Alors on va s'écouter un dernier morceau. Il s'agit pour moi aussi d'un coup de cœur, que ce soit le morceau mais aussi l'endroit où je l'ai découvert. Alors je vous parle d'abord de l'endroit où je l'ai découvert. C'est dans une émission de Micro Féroce, qui est une émission de radio musicale sur RDIWA. Et du coup elles font des playlists thématiques avec des émissions de 1 à 2 heures. Et celle-là, c'est une émission sur les injonctions. Donc on va écouter Jassidic Home de Dame, qui est un morceau de rap palestinien qui parle de ce que ça veut dire avoir un corps de femme, avoir un corps palestinien. Bonne écoute et à dans 2 semaines.
هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدكهم الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي جسدي الأنثوي جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب جسدي بكفي غلطة وحدة انزلاق واحد صورة واحدة فيديو واحد كم من عين في عجسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي همي ضد إحنا وأنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر أخذ لي وقت أتعلم أعشق جسدي جسدي الأنثوي العربي وقف قبل المراي خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري بدي أشوف عيوبي طريق عيوني دب عيونك هذا النهد إلي دب إيديك هذا الفخذ إلي دب ملاحظاتك شعر الإيدان وشعر تحت الأباط بس إلي سيطر على تعبير وجهك هدول الكم إكسترا كيلو إلي السيلوليت إلي تشققات الجلد علامات الحمل بس إلي الشاب التواليل الشمات الوراك الحبوب كله بس إلي هذا المطبخ مش بس إلي بس هذا الزيت هذا الزعتر والعكوب إلي بشرة القمحية إلي وهاي العيون إلي لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني 42 200 120 على 136 42 مليون مرة تاجروا في جسدي 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي